Je me souviens, quand j'étais gosse, la première fois que je me suis rendu compte que la mort était le destin de tous les hommes et que moi j'étais un homme et j'allais mourir comme tout le monde. Et ça m'a beaucoup effrayé parce que j'avais le sentiment que je ne voulais pas disparaître, que je ne voulais pas, je ne pouvais pas concevoir que moi, je puis ne pas exister. Et j'ai demandé à ma mère qu'est-ce qu'elle pensait. J'ai dit, est-ce qu'il a une vie après la mort? La mort physique, bien sûr. Elle m'a dit, oui, je pense qu'il y en a. Elle dit, elle a cité les rêves qui sont souvent cités comme exemple d'une conscience qui dépasse la conscience physique, parce qu'on est en sommeil, n'est-ce pas? Nos facultés physiques sont endormies. Néanmoins, nous pouvons même dans les rêves raisonner, et puis enfin, nous avons nos esprits sont éveillés dans le rêve, même si nos facultés physiques sont endormies. Elle a dit, j'ai pensé que peut-être l'autre vie serait un peu comme un rêve. Alors avec cela, j'ai éclaté en larmes parce que je ne veux pas que ça soit un rêve, je veux que ça soit réel. J'étais beaucoup préoccupé de cette question de mort, de vie après la mort, pendant mon enfance et ma jeunesse. Finalement, j'ai en quelque sorte résolu la chose. J'ai écrit un poème quand j'avais l'âge de 18 ans, sur la mort. Où là, j'avais vraiment, j'avais un sentiment, une intuition qui revenait presque à la certitude qu'il y avait une vie après la mort, après cette vie, enfin une vie après la mort, et que mon âme était éternelle, que l'âme de tout le monde était éternelle. J'avais une sorte de consolation, une sorte de sentiment de paix. Qui m'a pas quitté sur ce point-là. Donc, j'ai vécu tout le reste de ma vie, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir même, dans une certitude de l'existence d'une vie après cette vie. Mais graduellement, il y a une autre question qui m'est venue à l'esprit et qui sert de base de l'interrogation de ce soir. Et ça, c'est quelle est la qualité de cette vie? C'est une chose de dire que on vit pour toujours, parce qu'on existe, mais une vie de souffrance, ou une vie ennuyeuse, justement, ça serait pas l'immortalité qu'on aimerait le concevoir, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça serait plutôt la définition de l'enfer, c'est de vivre éternellement, d'être condamné, pour ainsi dire, à vivre éternellement dans une condition de souffrance ou d'ennui. Il y a des poètes et des penseurs qui ont réfléchi beaucoup sur cette question. Goethe était un des poètes dans l'histoire de Faust. Il a des méditations très profondes là-dessus. Et puis Baudelaire, j'aimerais juste citer un poème que je suis certain que vous connaissez tous. Peut-être involontairement, puisqu'on l'apprend à l'école. Je ne vais pas lire tout le poème, c'est la préface au lecteur des Fleurs du Mal de Baudelaire. Et la première partie du poème, que je ne vais pas passer à travers tout ça, il dit « La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps. Et nous alimentons nos aimables remords, comme les mendiants nourrissent leur vermine. Donc, c'est, il est vraiment... et puis, il dit, donc, il parle de tous ses vices, enfin, etc. Et il dit, finalement, le poème se termine comme ceci. Il dit, « Mais parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants, dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un, plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand geste, ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris. Et dans un bâillement, avait à avalerait le monde. » Je vais répéter. « Et dans un bâillement, avalerait le monde. Selon lui, l'œil est chargé d'un pleur involontaire. Il rêve d'échauffard en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. » Bien sûr, il était un existentialiste très avancé, comme vous voyez. Et puis le titre justement de son ouvrage, c'est « Les fleurs du mal », dont 6 pièces étaient condamnées en justice. En fait, c'est presque l'unique fois dans tout. Je ne pense pas que les écrits de Marquis de Sade étaient condamnés en justice, mais il a 6 poèmes de Baudelaire qui étaient condamnés en justice. Et finalement, il s'est exilé en Belgique. Alors, tout ça pour dire qu'il a ce sentiment d'ennui. Et finalement, il est difficile à savoir qu'est-ce qui serait pire, c'est-à-dire une souffrance active comme une douleur, ou l'ennui, n'est-ce pas? Parce que l'ennui, c'est l'absence de signification, c'est l'absence de sens. Et même la douleur peut donner un sens à notre vie, n'est-ce pas? La douleur, on peut être heureux dans la douleur. Mais être heureux dans l'ennui, c'est pas possible. C'est deux opposés, vraiment. L'ennui, c'est l'opposé du bonheur, n'est-ce pas? En fait, l'ennui, c'est le cafard, c'est le... Mais c'est surtout le manque de signification dans la vie. Quand on sent l'ennui, c'est que la vie n'a pas de signification. Alors, je pense que si on pense comment nous vivons nos vies, moi je dirais que, moi, je prétends que ce que je vais maintenant décrire décrit la vie de la plupart d'entre nous. Nous avons peut-être 10 ou 15% des activités qu'on aime vraiment. Manger un bon repas en compagnie des amis, n'est-ce pas, écouter vraiment de la belle musique, la musique que nous aimons, quoi qu'il en soit, une bonne pièce de théâtre, etc. L'amour des conjoints ou des amis. Par la force des choses même, ces activités plaisantes occupent la moindre partie de notre vie, parce que d'abord on dort un tiers de notre vie, n'est-ce pas? Et puis en plus, il faut travailler, il faut gagner son pain quotidien, il faut étudier. Et ma foi, aussi intéressant que les études puissent être, ou le travail peut être, il y a quand même des éléments de tout travail qui est simplement ennuyeux, n'est-ce pas? Je reprends le mot, n'est-ce pas? Qui sont pénibles. Et je pense que c'est rarement donné à des gens d'avoir des emplois qui leur plaisent vraiment. C'est-à-dire, dans l'ensemble, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens malheureux dans leurs emplois que heureux. Enfin, peut-être je me trompe, mais il y a quand même beaucoup de gens que si vous les interrogez de très près, ils vont dire, moi là, je t'offre ça parce que j'ai besoin de nourrir ma famille et tout ça, mais peut-être il a un hobby, peut-être il a quelque chose qui l'intéresse vraiment, la photo, ou il a quelque chose qui l'intéresse vraiment, qui fait à côté, Mais c'est très rare que vraiment c'est le travail, c'est son activité principale économique qui va lui donner une joie, un sens à la vie, n'est-ce pas? Donc, on passe en teuf, pour ainsi dire, ces moments d'ennui en pensant aux activités plaisantes qu'on va entreprendre. On passe la journée au travail, une journée difficile au travail, en pensant, ben, ce soir, je vais rencontrer ma blonde, je vais aller souper avec elle, etc. On va au théâtre. C'est-à-dire, on pense, on fixe nos esprits sur les choses qui sont plaisantes, les choses que nous aimons vraiment. Et ça nous permet d'endurer, pour ainsi dire, les autres moments. Je ne sais pas si ça vous rejoint du tout dans votre vécu, mais je pense que c'est... En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas, à chaque moment de notre vie, un sens de signification profonde, un sens de vitalité profonde. Nous avons un sentiment d'endurer beaucoup de moments dans notre vie pour pouvoir vivre les 10 ou 15% de moments qui sont vraiment agréables et même envoûtants, etc. Donc la première chose que je dirais, c'est que si ça c'est l'éternité, si l'éternité c'est rien d'autre que vivre une vie comme ça à l'infini, je pense que vous serez d'accord avec moi que ça ne serait pas très intéressant. Je pense que même à la longue, on préférerait la mort que de vivre une vie éternelle dans la moule que nous vivons la vie de tous les jours. Donc, si il y a une vie éternelle, et si c'est Dieu qui a créé cette vie éternelle, et si cette vie éternelle n'est pas un enfer, si Dieu veut que ça soit une joie, il faudrait qu'il ait d'autres éléments ou des éléments dans une autre proportion, de toute façon, que ce que nous expérimentons dans cette vie. Alors, Abdu'l Bahá explique la chose de la manière suivante. Il dit, la nature de cette vie, c'est la tension des forces opposées. Il dit, la matière n'est pas en elle-même, ou le monde matériel n'a pas en elle-même un pouvoir de progression. La mesure même de la matière, c'est la masse. Et qu'est-ce que c'est la masse? La masse, c'est une mesure de l'inertie, c'est-à-dire la propension à résister le changement. Plus qu'un objet est massif, plus que c'est difficile de le changer. Donc, la matière en elle-même est une résistance au changement. Tandis que, du point de vue spirituel, intellectuel, émotionnel, nous vivons du changement, de la notion de progrès. Nous devons aller quelque part, nous voulons aller quelque part. Bref, j'arrive au point suivant. Il faudrait que la vie éternelle ait un but. Il faut qu'on aille quelque part. Simplement, de vivre à répétition une même chose, ça serait effectivement ennuyeux. Donc, il faut qu'il ait un sens de progrès, de progression. Il faut qu'il ait un but. Et en plus, il faudrait que ce but donne une signification de la vie à chaque instant de la vie. Parce qu'on sait très bien en mathématiques, la somme de zéro, de nombre quelconque de zéro, c'est zéro. Si il n'y a pas de signification dans chaque moment de la vie, il ne peut pas y avoir une signification dans l'ensemble de la vie, n'est-ce pas, en fait? L'ensemble de moments sans signification, c'est un gros moment sans signification, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui donne la signification à la vie? C'est d'abord un but dans la vie. Et dans la foi bahaïe, on dit que ce but, c'est le progrès spirituel ou le développement spirituel. Le fait que nous, l'espoir, si vous voulez, la conception, que demain et dans le futur, nous allons être plus épanouis spirituellement que nous le sommes aujourd'hui. La notion de progrès spirituel. Mais, comme Abdu'l-Bahá dit, ce monde physique est un monde de tensions opposées, parce qu'il y a cette aspiration spirituelle vers Dieu, qui est le but ultime, et il y a le monde matériel qui nous retient, qui est une sorte de résistance contre laquelle nous luttons. Et ce qui fait que dans ce monde, tout qui commence finit, tout ce qui monte descend, etc. C'est-à-dire ce mouvement périodique qui caractérise enfin le mouvement des planètes autour du Soleil, le battement du cœur, les ondes du cerveau, tout est périodique. La loi universelle du monde matériel, c'est la périodicité, c'est le mouvement harmonique, c'est le mouvement continuel, mais entre les limites fixes. Ça ne va nulle part. Vous avez l'impression d'aller, vous allez à l'apogée de votre vie, mais vous allez décliner, vous allez devenir vieux, vous allez mourir, en fait, vous allez perdre vos facultés, etc., etc. Donc, tout ce qui monte dans cette vie finit par descendre, n'est-ce pas? C'est une loi qui est inscrite dans la vie matérielle. Donc, cette tension de forces opposées fait que cette vie est une vie d'épreuves. Qu'il y a, si vous voulez, des souffrances dans cette vie et que ces souffrances sont inévitables. Et dans la foi bahaïe, nous appelons ces souffrances parfois des épreuves. Et Abdu'l-Bahá parle de la nature de ces épreuves. Je voulais juste lire un court passage tiré justement des causeries à Paris. Nos souffrances, dit-il, sont dues à des causes matérielles. Toutes les épreuves et tous les soucis proviennent de ce monde d'illusions. Un marchand pourra, par exemple, faire faillite et tomber dans le découragement. Un ouvrier être congédié et réduit à des privations. Un fermier faire une mauvaise récolte et se sentir plein d'angoisse. Un homme qui a construit sa maison et le voit anéanti par un incendie se trouvera aussitôt sans foyer, ruiné et désespéré. Tous ces exemples sont destinés à vous montrer que les épreuves, ça c'est le mot qu'Abdu'l-Bahá utilise très souvent, que les épreuves qui nous assaillent à chaque pas, tous nos chagrins, nos peines, nos humiliations et nos douleurs sont d'origine matérielle. Tandis que le monde spirituel n'est jamais cause de tristesse. L'homme qui dirige ses pensées vers ce royaume connaît une joie sans fin. Les maux physiques ne l'atteignent pas. Ils l'affectent seulement d'une manière superficielle. Mais il demeure au fond de lui-même dans le calme et la sérénité. L'humanité fléchit aujourd'hui sous le poids de l'inquiétude, du chagrin et de la douleur. Personne ne s'y échappe. Le monde est une vallée de larmes, mais grâce à Dieu, le remède est à notre porte. Que notre cœur se détourne de la matière pour vivre dans le monde de l'esprit. Seul ce monde peut nous donner la liberté. Si nous sommes entourés de difficultés, il nous suffit d'invoquer Dieu et par sa grâce infinie, nous serons assistés, etc. Il continue de cette manière. Alors, d'une façon un peu plus philosophique et métaphysique, Abdu'l-Bahá explique cela. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il peut y avoir une vie qui soit à la fois dynamique et progressive et sans épreuve? Adwar explique que dans le monde spirituel, après la mort physique, que ce monde, il n'y a plus de tension, de force opposée. Il dit tout mouvement est vers Dieu, est vers le haut. Il dit une âme peut être stationnaire, une âme peut ne pas progresser, mais elle ne peut pas reculer. Parce que ce qui fait reculer, ce qui nous fait reculer dans ce monde, c'est la force de la matière qui nous retient. Et si on ne lutte pas suffisamment fort contre cette force, eh bien on régresse, n'est-ce pas? On régresse comme un homme, comme de tous les cercles vicieux que nous connaissons dans la vie, l'alcoolique qui devient de plus en plus dépendant, ou le drogué, ou enfin on parle maintenant de toutes sortes de vices, de dépendance, enfin le sexe, l'émotionnalité, enfin tout, il a tout un zoo de dépendance dont on parle aujourd'hui. Tout ça pour dire que ce sont des cercles vicieux qui proviennent de cet attachement au monde matériel dont Abdu'l-Bahá parle. C'est la recherche, si vous voulez, d'un bonheur, mais qui ne pourrait pas être durable. Abdu'l-Bahá l'explique de la façon suivante. Il dit, le bonheur que peut donner le monde matériel est toujours la satisfaction d'un besoin. Et ainsi, ce bonheur est toujours limité. Si j'ai très faim et je mange un bon repas, je suis heureux. C'est très agréable, n'est-ce pas? C'est très agréable. Mais demain, je vais avoir faim de nouveau, n'est-ce pas? Et donc, ce bonheur d'avoir mangé ce repas n'est pas durable, n'est-ce pas? Ainsi, si je suis malade et je trouve une guérison à ma maladie, je suis heureux. Mais je vais tomber malade tôt ou tard, encore une fois, mais je vais mourir de toute façon. Et on ne meurt pas en bonne santé, n'est-ce pas? Donc, même si je suis guéri d'une maladie, que je retombe malade tôt ou tard est inévitable. Donc, Abdu'l-Bahá explique que toutes les joies de ce monde sont limitées et limitées dans l'espace et le temps, c'est-à-dire ils ne sont pas éternels, ils ne sont pas durables. Pourquoi? Parce que toutes ces joies, il ne dit pas qu'il n'a pas de joie, attention, il ne dit pas qu'il n'en a pas, mais il dit toutes les joies matérielles sont satisfaction de besoins. Et puisque ces besoins sont périodiques, se font sentir, alors on est continuellement dans ce cycle d'avoir des besoins et de souffrir. Quand on manque quelque chose, on souffre. Donc avoir des besoins, c'est la souffrance. Satisfaire les besoins, c'est le bonheur, mais un bonheur qui n'est pas durable. Okay? Et voilà le cycle de satisfaction des besoins. De nouveaux créations de besoins, de nouvelles satisfactions, etc. Et ça continue. Tandis qu'il dit que dans le monde spirituel, que le monde spirituel donne un bonheur qui est intrinsèque. Qui est intrinsèque. Qui n'est pas simplement la satisfaction d'un besoin. Et il dit, dans ce monde, la chose qui se rapproche le plus de cette joie, c'est l'amour véritable entre l'homme et Dieu, entre les êtres humains. Que l'amour, dit-il, est la seule source de bonheur durable dans ce monde ou dans l'autre monde. Ça, c'est des mots exacts d'Abdu'l-Bahá. Je répète ça parce que c'est très important. Il dit, l'amour est la seule source de bonheur véritable dans ce monde ou dans l'autre monde. Notons qu'il dit bonheur véritable, parce que donc ça l'écarte des bonheurs matériels qui ne sont pas durables et qui ne sont pas des véritables bonheurs parce que pas durables. Donc la nature de l'autre monde, c'est que elle est structurée, si vous voulez, de telle façon à ce que il n'y a pas de tension de force opposée, Donc il n'y a pas de lutte, il n'y a pas cette tension constante que nous ressentons à chaque moment de notre vie, cette tension entre l'aspiration vers le bonheur et toutes les forces matérielles qui nous assaillent de tous côtés. Cette tension est absente dans notre monde. Et tout mouvement est vers Dieu, vers le haut. Donc on est dans le bonheur et on progresse dans le bonheur. Donc ce n'est pas simplement un bonheur qui est stable, mais c'est un bonheur qui est dynamique. Abdu'l-Bahá dit ça très explicitement. Donc il y a non seulement bonheur, mais progrès dans le bonheur. Ce qui donc donne un but ou une signification à notre existence, dans cette vie aussi bien que dans l'autre vie. Donc, selon Abdu'l-Bahá, pour ces raisons-là, l'éternité ne serait pas ennuyeuse. L'éternité, c'est le ciel, ok? C'est pas l'enfer, c'est le ciel, parce que à cause de cette structure que j'ai décrite. Mais dernière chose que j'aimerais dire, Abdu'l-Bahá explique qu'il faut préparer ce bonheur déjà dans ce monde. C'est-à-dire, comme le bébé dans le ventre de sa mère acquiert des capacités dont il a besoin dans ce monde physique, les yeux, les bras, les jambes et tout ça, il acquiert les organes dont il aura besoin de fonctionner dans ce monde. Dans ce monde, nous devons nous appliquer à acquérir les qualités spirituelles dont nous aurons besoin dans l'autre monde. Besoin dans quel sens? Besoin pour vivre ce bonheur, pour vivre pleinement ce bonheur. Donc, dans l'autre monde, ce n'est pas un mal actif. Comme il a dit, l'autre monde ne peut pas être la cause de malheur. Mais ça ne veut pas dire, il y a une petite subtilité là. Nous pouvons discuter. Il ne dit pas qu'on ne peut pas souffrir dans l'autre monde. Il dit que toutes les causes de souffrance sont dans le monde matériel. Donc si nous souffrons dans l'autre monde, ça serait à cause des attachements que nous gardons encore à des choses de ce monde, n'est-ce pas? Il dit l'autre monde ne peut pas être la cause de peine. Les peines n'originent pas du côté spirituel. Sa origine, toutes les souffrances sont d'origine matérielle d'une façon ou l'autre. Comme Abdu'l-Bahá, je le cite dans ce sens-là, il dit tous nos malheurs proviennent d'une façon directe ou indirecte de notre attachement à ce monde. Ce qui revient à dire, si vous voulez, que si on arrivait à être complètement détaché de ce monde, même dans ce monde, on serait parfaitement heureux déjà dans ce monde. Et c'est un peu de cela qu'il parle, que même en vivant dans ce monde, on peut tourner nos pensées vers le monde spirituel. Alors, donc, pour que non seulement l'éternité, mais même la vie sur cette terre ne soit pas ennuyeuse, il y a une façon de faire, et c'est de tourner nos pensées vers le monde spirituel, comme Abdu'l-Bahá le dit. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.